Le Haut-Commissariat se réjouit du calme qui a régné le 24 septembre. Les forces de l'ordre resteront mobilisées au cours des prochains jours pour éviter les troubles à l'ordre public. Un défaut technique au poste relais 33 000 volts situé à Ducos. Plusieurs milliers d'habitants du Grand Nouméa ont été privés de courant en début d'après-midi. Explication dans ce journal. Sébastien Lecornu assure qu'il ne veut pas passer en force sur le budget. Le Premier ministre veut travailler avec les partenaires sociaux. Après une nouvelle série de consultations, les syndicats ont annoncé une nouvelle journée de mobilisation. Toujours dans l'actualité en métropole, une enseignante attaquée au couteau dans un collège du Bas-Rhin. Ses jours ne sont pas en danger. L'assaillant, un élève de 14 ans fasciné par Hitler et les armes, s'est lui-même poignardé lors de son interpellation. Il a été grièvement blessé. Le sport avec du football et on joue ce matin les premiers matchs de la première journée de l'Europa League. L'OGC Nice reçoit les Italiens de l'AS Rome 0-0 à la demi-heure de jeu. La météo en Nouvelle-Calédonie, sur le sud, les belles éclaircies se maintiennent malgré des nuages plus nombreux au fil des heures. Sur le reste du territoire, le beau temps se maintient, les températures maximales proches des normales et même parfois inférieures sont comprises entre 23 et 27 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité en Nouvelle-Calédonie.
Oui, c'était hier, 24 septembre, le 172e anniversaire du rattachement de la Nouvelle-Calédonie à la France, également journée de la citoyenneté depuis 2005. Une fête pour laquelle les forces de l'ordre étaient mobilisées. Aucun incident n'a été signalé. À l'appel du comité 150 ans après, plusieurs centaines de personnes se sont réunies toute la journée au Mwaka à Nouméa. D'autres rassemblements ont eu lieu à Poindimier, Puebo, Wailou, Yengen ou encore Marais, indique le Haut-Commissariat dans un communiqué. Il se réjouit que cette journée ait été conforme à la volonté de nombreux Calédoniens pour qui elle représente un moment festif et de rassemblement. Le Haut-Commissariat qui rappelle que d'autres événements sont prévus en fin de semaine et qu'ils feront l'objet de la même attention. Rappelons que la vente d'alcool à emporter reste interdite jusqu'à dimanche inclus. Toujours dans l'actualité, il y a ce 24 septembre, une déclaration unitaire du nouveau FLNKS, du MNIS et de l'EPKNC et de l'instance autochtone de discussion qui réunit le Sénat coutumier et les conseillers coutumiers pour marquer le 24 septembre. Lionel Sabot.
Face à la presse, ils ont lu un texte qui rappelle l'histoire et qui réaffirme leur volonté de voir accéder le pays à la pleine souveraineté dans le cadre des discussions et négociations avec la France. Ils rappellent leur volonté que les élections provinciales soient maintenues en novembre 2025 et que l'indépendance soit proclamée au plus tard avant la présidentielle de 2027, une déclaration de principe qui sera transmise notamment aux pays de la région et au comité des 24 de l'ONU. Reste que ce 24 septembre 2025 avait été présenté à plusieurs reprises comme la date d'une proclamation unilatérale d'indépendance. Ce n'est pas le cas, reconnaît Dominique Fauchil, le secrétaire général de l'Union calédonienne.
C'est le calendrier qu'on s'était fixé au côté du FLNKS. Maintenant, on n'a plus d'interlocuteur au niveau de l'État, donc par voie de conséquence, on constate tout simplement qu'on ne pouvait pas y aller jusqu'au bout, tenir le calendrier qui a été fixé. Apparemment, ils sont plus en train de traiter la mise en place du gouvernement. Hein. Donc, on ne sait pas qui c'est l'interlocuteur, si c'est le Premier ministre qui va reprendre le dossier calédonien, le MOM. On est un peu dans l'expectative.
Et le Palika et l'UPM auraient été approchés pour s'associer à cette déclaration unitaire, mais ils n'auraient pas donné suite.
Une importante coupure de courant hier en début d'après-midi sur le Grand Nouméa. La panne a été détectée. Il s'agit d'un défaut technique au poste relais 33 000 volts situé à Ducos. Conformément au dispositif de sécurité, les protections du réseau se sont déclenchées pour préserver les installations électriques. Et grâce à l'intervention rapide des équipes d'Enercal et de EEC, l'ensemble des clients sur les communes de Dimbéa, Païta, Nouméa et Le Mont-d'Or a pu être rapidement réalimenté. Les précisions de Laure Leroy, directrice des opérations d'EEC.
On a eu une coupure à midi 26 exactement, qui a concerné environ 48 200 clients du Grand Nouméa côté sur la partie EEC. Donc avec des clients de Nouméa, Dimbéa et Mont-d'Or. 48 200 clients, c'est une majorité de foyers et certains professionnels également qui ont été coupés. La coupure a concerné 3 points de livraison, qui sont les 2 points de livraison à Ducos et 1 point de livraison à Boulari, donc voilà, qui ont impacté une grosse partie du Grand Nouméa.
Et cette coupure de courant aura duré plus d'une heure et demie dans certains secteurs de Nouméa et du Grand Nouméa.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et avant de refermer cette page, c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Au lendemain du 24 septembre, pensez-vous que la fête de la citoyenneté a encore un sens? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Quelles sont les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel sur la QPC concernant le gel du corps électoral ? Nous en parlerons ce matin en compagnie de Raphaël Romano, le président de l'association Un cœur, une voix, qui a déposé cette question prioritaire de constitutionnalité. Raphaël Romano, qui sera donc notre invité du matin à 7h30. Apprendre l'entreprise dès le lycée, c'est un projet pilote mené au lycée Jules Garnier avec les classes de seconde, première et terminale. Et il pourrait aussi bientôt se déployer dans plusieurs endroits du territoire grâce à un bus itinérant. Nous en parlerons ce midi dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Jean-François Baudin recevra notamment Julie Micheli, chargée de mission école-entreprise au vice-rectorat et professeure d'éco-gestion au lycée Jules Garnier, où elle pilote le projet. Elle sera accompagnée également par une élève de première engagée dans ce projet, lycée Capouille, et Cynthia Coindredi, la directrice territoriale de l'ADI, ainsi que Bénédicte Barret de la SECAL, qui accompagne des élèves dans ce parcours entrepreneur, font partie donc des invités de cette émission. Il est 6h passé de 37 minutes, vous écoutez Radio Rythme Bleu, on va marquer une première pause publicitaire dans ce journal avant de voir l'actualité nationale et notamment la suite des consultations à Matignon pour Sébastien Lecornu.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lanzvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
Votre tranquillité d'esprit avant tout. Pour recevoir toutes les informations importantes sur les coupures, le montant de votre facture et la date d'autorelève, mettez à jour vos contacts e-mail et numéros de téléphone. Contactez-nous à clientèle@cde.nc ou au 05 01 25. Calédonienne des eaux, l'eau qui nous unit.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
L'actualité politique nationale pour la suite du journal et Sébastien Lecornu qui assure qu'il ne veut pas passer en force sur le budget. Après une nouvelle journée de consultation avec les partenaires sociaux à Matignon, le Premier ministre invite ce matin les syndicats et le patronat à travailler sur 5 thématiques dans les prochains jours. Le financement de la protection sociale, la réindustrialisation, les conditions de travail, le renforcement du paritarisme et la modernisation du marché du travail. Mais malgré cette main tendue, aucune partie ne semble satisfaite aujourd'hui, Alexis de la Fontaine.
Oui, à commencer par les syndicats, très remontés contre Sébastien Lecornu. Aucune de nos revendications n'a été entendue, ni sur le budget, l'assurance chômage, les retraites ou les postes de fonctionnaires, déplore Sophie Binet de la CGT, qui veut continuer son combat.
C'est donc une occasion manquée. Nous sommes extrêmement en colère que 1 million de personnes n'aient aucune réponse précise à leurs demandes. Et donc, c'est pour ça que nous sommes déterminés à continuer la mobilisation avec cette date du 2 octobre.
Seule avancée pour la gauche et les syndicats, Sébastien Lecornu pourrait céder sur la taxation des plus riches avec une alternative crédible à la taxe Zucman. Mais cette hypothèse reste une ligne rouge pour le MEDEF. Alors, en réponse, son président Patrick Martin annonce organiser un meeting le 13 octobre pour faire entendre la voix des entreprises.
Il nous paraît nécessaire de rééquilibrer un débat qui a été préempté en quelque sorte très habilement, je dois le reconnaître, par certains et qui sature en définitive les ondes, si vous me permettez, sur les super riches, etc. Le vrai sujet de la France aujourd'hui, c'est de recréer de la dynamique économique.
Selon l'entourage du Premier ministre, Sébastien Lecornu annoncera ses arbitrages définitifs très prochainement.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1 et lors des consultations organisées cette nuit, Sébastien Lecornu a lui-même affirmé qu'il était, je cite, « le Premier ministre le plus faible de la Ve République ». Alors vous l'avez entendu, le MEDEF annonce un grand meeting le 13 octobre prochain. Les patrons qui expriment leur colère face au projet de taxes supplémentaires envisagées dans le cadre du prochain budget. Ils estiment en payer déjà assez. La FEP, qui réunit une centaine de groupes français, publie aujourd'hui des chiffres très parlants sur les impôts payés chaque année par ces sociétés. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe.
Oui, sur l'année 2024, elles ont versé 85 milliards d'euros de prélèvements obligatoires, soit 20% du montant total acquitté par l'ensemble des entreprises en France. L'Association française des entreprises privées estime d'ailleurs qu'en prenant en compte les hausses d'impôts votées en février dernier, ce montant global va augmenter d'environ 10% cette année, une manière évidemment de répondre aux propositions de taxes supplémentaires les concernant. Ces grandes entreprises rappellent également qu'elles représentent 13% du PIB marchand, qu'elles emploient 12% des salariés du pays et qu'elles ont versé 164 milliards d'euros de masse salariale en 2024 à des employés qui touchent un salaire supérieur de 22% à la moyenne nationale. Enfin, la FEP a tenu à bien préciser la répartition de la valeur de ce que ces entreprises produisent dans le pays. 60% va aux salariés, 20% pour l'investissement, 15% pour les prélèvements obligatoires et 5% pour les actionnaires. Une mise au point pas anodine en plein débat sur le futur budget qui pourrait les mettre à contribution, même si pour l'heure, rien n'est tranché.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. C'est un rapport explosif qui devrait secouer la campagne municipale des prochains mois à Paris. La Chambre régionale des comptes d'Île-de-France a rendu ses conclusions sur la situation financière de la ville de Paris entre 2021 et 2024 sous Anne Hidalgo. Et le constat est sans appel. La capitale est passée, financièrement parlant, d'un état de fragilité à un état dégradé. Et cette instance préconise désormais une nécessaire adaptation, Maïalène Trémollet.
Oui, avec une augmentation de 13% des dépenses de fonctionnement contre seulement 11,6% de recettes ou encore un encours de la dette qui atteint un peu plus de 9 milliards d'euros fin 2024. La ville de Paris est, selon la CRC, dans un état critique. Un état qui ne surprend pas Nelly Garnier, conseillère à l'air de la ville et porte-parole de Rachida Dati.
Ce rapport, il confirme ce qu'on dit depuis 2020, qu'il n'y a aucune maîtrise des dépenses publiques.
La CRC pointe du doigt des investissements qui demeurent très lourds, notamment pour la création de logements sociaux, et rappelle que la ville a déjà utilisé plusieurs marges de manœuvre pour ses recettes, incluant une forte hausse de la fiscalité, toujours au détriment des Parisiens, selon Nelly Garnier.
Cette hausse, elle est déjà mangée par l'intégralité des dépenses non contrôlées de la ville de Paris. On comprend qu'il y a un très fort mécontentement des Parisiens de se dire qu'ils payent toujours plus d'impôts pour toujours moins de services publics.
Si de son côté, la gauche parisienne critique un rapport publié à la veille des élections municipales, le sujet devrait être néanmoins largement évoqué lors du Conseil de Paris le 7 octobre prochain.
Maïalène Trémollet pour Europe 1. Il est 6h42, vous écoutez Radio Rythme Bleu. La suite de l'actualité en métropole, ce sera juste après la publicité. Avec notamment cet élève d'un collège qui a poignardé sa professeure dans le Bas-Rhin avant de retourner l'arme contre lui. Il est fasciné par Hitler, selon Elisabeth Borne, la ministre démissionnaire de l'Éducation nationale.
RRB, 6h-8h, Nicolas Legrand.
Chante ma ville, c'est parti pour une nouvelle saison.
Vous aimez chanter, vous êtes professionnel ou amateur, dans un groupe ou en solo?
La ville de Nouméa propose 4 présélections pour tenter votre chance, le 25 septembre et les 2, 9 et 16 octobre.
Rendez-vous sur le site nouméa.nc pour retirer votre dossier d'inscription et vous lancer dans cette aventure. La clôture des inscriptions se fait une semaine max avant la présélection choisie. Informations détaillées, règlement du concours sur nouméa.nc.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
Gédimat, 51 rue Hauer à Ducos, c'est le partenaire des pros et des particuliers. Peinture, lasure, revêtement de sol et mur, salle de bain, produits techniques, étanchéité, électroportatif et quincaillerie. Gédimat, 25 98 84 ou sur Facebook, Gédimat Nouméa.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
L'actualité en métropole, c'est la suite de votre journal. On retrouve Nicolas Legrand.
Avec, donc, je le disais, une attaque au couteau dans un collège du Bas-Rhin hier soir. Un élève de 14 ans a poignardé sa prof au niveau du visage avant de s'enfuir. L'enseignante de 66 ans est désormais hors de danger. Son agresseur, lui, a été transporté en urgence absolue à l'hôpital après s'être lui-même asséné plusieurs coups de couteau après son passage à l'acte. La ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, s'est rendue sur place tout à l'heure et elle a donné de nombreux détails sur la personnalité de cet adolescent. Antoine Bienveau pour Europe 1.
Oui, selon Elisabeth Borne, cet élève de 3e a eu un parcours personnel et familial très difficile. Placé très jeune, il subit les coups de sa famille d'accueil et se retrouve dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance. Atteint d'un handicap psychologique, il bénéficiait aussi d'un soutien particulier au collège. Ses camarades sur place parlent d'un jeune homme perturbé, taciturne et surtout très attiré par l'idéologie nazie, comme l'a confirmé Elisabeth Borne tout à l'heure.
C'est un jeune qui avait été repéré pour une certaine fascination vis-à-vis d'Hitler et qui, pour cela, avait eu une sanction disciplinaire avec une exclusion temporaire. De la même façon, au début de semaine, il a de nouveau dessiné des symboles SS sur un cahier et donc une procédure disciplinaire était également prévue.
Selon plusieurs élèves, il aurait aussi entonné en plein cours des chants nazis à plusieurs reprises. 2 enquêtes ont été ouvertes pour déterminer d'abord les circonstances de son passage à l'acte et celles de son interpellation. Oui.
Antoine Mirveau pour Europe 1. Un vaste réseau de blanchiment d'argent en lien avec la DZ Mafia démantelé ces derniers jours. Une affaire dévoilée hier par le parquet de Marseille. Une 20aine de personnes de diverses nationalités interpellées depuis le début du mois. Ce réseau s'était en fait spécialisé dans la conversion de l'argent de la drogue en or, un coup de filet réalisé grâce à une coopération parfaite entre les autorités françaises et italiennes. Stéphane Burgat pour Europe 1.
Oui, et un signalement de la brigade financière de Milan. Très vite, une équipe d'enquêteurs est montée entre la France et l'Italie en lien avec le parquet antimafia de Rome et l'aide d'Europol également. Il faut dire que l'affaire est énorme. 30 millions d'euros auraient été blanchis en l'espace de 10 mois seulement. Le réseau est tenu par des Kosovars. Ils récupéraient le butin des narcos, notamment des Marseillais de la DZ Mafia. De l'argent était caché dans des voitures conduites par des ressortissants syriens, notamment direction l'Italie. Les sommes étaient centralisées là, puis échangées contre de l'or qui transitait ensuite via le Kosovo et la Turquie. Les gendarmes vont donc procéder à deux coups de filet ce mois-ci, le dernier en date hier, et des saisies qui en disent long. Au total, 55 kilos d'or en lingots saisis, ainsi que 2,5 millions d'euros qui sont récupérés au total, et 20 personnes interpellées majoritairement en France.
Stéphane Burgat pour Europe 1. L'actualité judiciaire toujours à la cour d'assises du Tarn maintenant. Les actes d'investigation étaient au cœur du troisième jour du procès de Cédric Jubilard. Le gendarme, nommé directeur d'enquête à partir du signalement de la disparition de Delphine Jubilard à Cagnac-les-Mines fin 2020, s'est présenté à la barre. Et pour répondre à la défense, qui soupçonne les enquêteurs de s'être immédiatement focalisés sur Cédric Jubilard, ce gendarme expérimenté a détaillé l'ensemble des pistes étudiées dans un premier temps, Charles Huillier.
Ce soir-là, il avait la motivation, un mobile et l'opportunité. Voici ce qu'a déclaré le directeur d'enquête cet après-midi. Et de poursuivre, objectivement, tous les éléments tendent à démontrer l'implication de Cédric Jubilard, malgré l'absence de preuves et d'aveux. La démonstration de ce gendarme aux 31 ans de service a duré 3 heures. Avec des exemples concrets. Dès les premiers instants, dit-il, Jubilard sait que sa femme ne reviendra pas. Et il ajoute, dès le 16 décembre, donc quelques heures après la disparition, il se désintéresse des recherches. Il aime sa nouvelle notoriété, se définissant lui-même comme un putaclic. Le gendarme rajoute même que quelques heures après, Cédric Jubilard s'est plaint auprès d'un journaliste. « Pourquoi tout le monde s'intéresse à Delphine et pas à moi ?» aurait-il déclaré. Le major a ensuite rappelé les confessions de Jubilard à son codétenu en prison et à son ex-petite amie. Il leur aurait avoué avoir tué Delphine. L'après-midi s'est achevé par des questions très offensives de la défense, notamment sur le manque de preuves matérielles du dossier et sur ce témoignage très à charge à l'endroit de leur client.
Et hier soir, Cédric Jubilard a répété devant la cour qu'il n'avait, je cite, pas tué son épouse Delphine. Le verdict est attendu le 17 octobre. L'actualité à l'étranger en bref, une attaque à l'arme à feu contre un centre de rétention pour migrants aux États-Unis. Un clandestin est mort, deux autres sont blessés. Le tireur qui s'était positionné sur le toit d'un immeuble voisin s'est donné la mort juste après les faits. Il aurait ouvert le feu sans discernement, selon les autorités. Après la reconnaissance d'un État palestinien par la France, Emmanuel Macron met en garde contre d'éventuelles représailles israéliennes. Fermer le consulat de France à Jérusalem serait une faute lourde, affirme ce matin le président de la République. Concernant maintenant les incursions russes dans l'espace aérien des pays de l'OTAN, Emmanuel Macron appelle les États touchés à monter d'un cran en cas de nouvel incident, mais sans abattre les appareils, comme le suggère Donald Trump. Il est 6h passé de 49 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive. On va parler notamment de football avec les premiers matchs de la Ligue Europa ce matin. Nice AS Rome, c'est l'affiche qui concerne un club français pour aujourd'hui. Il y a 0-0 à l'approche de la mi-temps. Et puis on parlera Force Athlétique également avec un Calédonien qui va se rendre aux Mondiaux prochainement. Il s'agit d'Axel Raymond.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Samedi 27 septembre de 8h à 13h, foncez au complexe Le 4. Vente flash sur les croquettes pour chiens et chats. Un pack acheté égale 1 offert. Vos animaux se régalent et la bande à nounous reçoit 10% des ventes. Offre valable uniquement le 27 septembre. Plus d'infos sur Facebook, Le 4. Le 4, 186 rue Jacques-Yécaoué. Faites vos courses autrement.
Qui a le droit ?
Patrick Bruel vous donne rendez-vous à l'Arène du Sud le 25 octobre pour son concert époustouflant. Une voix qui réveille les souvenirs, une énergie qui traverse les générations. Patrick Bruel en concert, un moment rare, vibrant, à vivre absolument le 25 octobre à l'Arène du Sud. Billetterie sur ticketpacific.nc et dans les supermarchés Auchan-Connet, Auteuil et Quai Ferry. Un événement et sa production, producteur d'émotions.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'Infomatin avec l'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
Du football à la une ce matin et le coup d'envoi de la première journée de l'Europa League. 9 matchs au menu du matin avec un club français sur les pelouses européennes, Lionel Sabot.
Effectivement, il s'agit de l'OGC Nice qui reçoit ce matin les Italiens de l'AS Rome. C'est la mi-temps et les deux équipes sont à égalité 0-0. Dans les autres matchs de cette matinée, Nottingham Forest, les Britanniques mènent 2-1 sur la pelouse du Betis Séville. Braga et le Feyenoord Rotterdam sont à égalité à la mi-temps 0-0. 0-0 également entre l'Étoile Rouge de Belgrade et le Celtic de Glasgow. Le Dynamo Zagreb et Fenerbahçe sont à égalité 1-1. Dans un derby suisse, le FC Fribourg mène 1-0 face au FC Bâle. Et puis les Bulgares de Ludogorets ont le bon goût de mener à la mi-temps 2-0 sur la pelouse de Malmö. Deux résultats définitifs pour cette première journée de phase de Ligue, de la Ligue Europa. Les Danois de Midtjylland qui se sont imposés 2-0 ce matin sur les Autrichiens du Sturm Graz et puis 0-0 ce matin toujours entre les Grecs du PAOK Salonique et les Israéliens du Maccabi Tel Aviv.
Et puis on retrouvera également des clubs français demain lors de la prochaine journée avec évidemment des rencontres que nous suivrons sur l'antenne de Radio Rythme Bleu.
Et Lyon et Lille.
Exactement.
Les Lyonnais qui affronteront Utrecht et Lille qui affrontera Bergen.
Et puis on va parler force athlétique également Lionel Sabot avec le Calédonien Axel Raymond, je le disais, qui est de nouveau en préparation pour les prochains mondiaux de la discipline.
Et le vice-champion du monde Master 2024 tentera à nouveau de briller en Afrique du Sud au mois d'octobre. L'année dernière, déjà au pays des Springboks, il était parti par ses propres moyens pour revenir avec une prestigieuse médaille d'argent. Cette année, les conditions de préparation se sont améliorées, mais le niveau sera relevé le jour J. Écoutez Axel Raymond.
Ce que je me dis avant le départ, c'est que... Bon, après, je me suis dit la même chose au championnat du monde en 2024 et j'ai réussi à faire une belle performance. Ce que je me dis là, c'est qu'il y a un très beau plateau avec un ancien champion du monde Open, un ancien champion du monde Master, le recordman du monde du soulevé de terre et un Américain qui est très fort. Mais comme je dis, tant que la compétition n'a pas commencé, on a toutes nos chances. Comparé à l'année dernière, déjà, je peux m'entraîner avec un coach présent et dans ma salle, parce que l'année dernière, c'était compliqué. Mais là, cette année, il y a mon coach titulaire, Kenny Wendt, qui est en déplacement. Donc, c'est Julien Moala, qui est mon partenaire d'entraînement et mon partenaire de compétition aux Jeux du Pacifique, qui s'occupe de moi. Donc, Kenny nous envoie les programmes à distance et Julien s'occupe de finaliser tous les petits détails. C'est une autre méthode de préparation. Le coaching est un peu plus, on va dire, un peu plus virulent. C'est rigolo à dire, mais voilà, c'est deux méthodes de travail différentes, mais ça fait un complément et je trouve que c'est vraiment, vraiment très agréable d'avoir ce complément.
Axel Raymond qui a surtout pu compter sur un solide travail d'équipe pour préparer ce déplacement.
Aujourd'hui, on a eu une grande solidarité, mais c'est vraiment un truc de fou. J'ai mon club Tagalo Hajim qui a décidé d'organiser des ventes. Ils ont fait un travail monstrueux pour pouvoir récupérer des fonds pour les championnats du monde. Donc on a fait une vente de plats sur un samedi. Ça m'a énormément aidé et je les remercie parce que c'est vraiment une grande famille Tagalo Hajim. C'est magnifique et j'ai aussi Fitness Boutique et Fitness Park qui me soutiennent sur toute la préparation, tous les produits de récupération. Sans toute cette solidarité-là, je ne pourrais pas arriver à l'objectif. Donc maintenant, je n'ai pas le droit de me louper, je crois. Un grand merci quand même à ma petite famille qui me soutient, ma fille, mon fils, ma femme qui sont tout le temps derrière moi, qui continuent à me pousser malgré les déplacements, malgré les soucis financiers pour pouvoir partir. Cet amour aussi me donne encore plus envie de continuer et de ramener de belles choses pour eux.
Des propos recueillis par Michael Juneski. Axel Raymond tentera donc à nouveau de terminer sur le podium mondial de force athlétique en Afrique du Sud. Ce sera Cape Town. Il sera engagé à mercredi 15 octobre prochain pour nous en Master 1 chez les moins de 93 kilos. Nous pourrons suivre ses performances aux environs de 18h, heure de Nouméa.
Merci Lionel Sabot. On termine avec la météo.
la météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménagé.
Et pour les prévisions du temps, on vous retrouve Thierry.
Oui, ce matin, Nicolas, sur le sud-ouest et l'extrême sud de la Grande Terre, des bancs de nuages circuleront et donneront parfois quelques gouttes en début de journée, puis le soleil s'imposera ailleurs, le soleil dominera largement. Le vent pour ce matin, sud à sud-est autour des 10 nœuds, localement 10 à 15 nœuds sur la pointe nord-ouest. Cet après-midi, sur le sud, les belles éclaircies se maintiendront malgré des nuages plus nombreux au fil des heures. Sur le reste du territoire, le beau temps se maintiendra. Le vent de secteur sud-est pour cet après-midi se renforce un peu pour atteindre 10 à 15 nœuds, hormis sur le nord-est où s'orienta à l'est, entre 5 et 10 nœuds. Les températures, elles comprises en général entre 23 et 27 degrés.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir écouté ce journal. Il sera disponible en réécoute sur notre site internet le www.rrb.nc. Dans un instant, après un petit peu de musique pour rejoindre le carillon de 7 heures, le rappel des titres de l'actualité de ce jeudi matin, puis le billet d'humeur de la rédaction sera signé Elisabeth Noir en ce 25 septembre. Et puis vous avez un avis, vous nous appellerez au 25 46 46.